Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre avec notre invité qui nous accompagne jusqu'à midi. Et c'est Didier Cornaille que j'ai le plaisir d'accueillir devant notre micro. Bonjour Didier.
Bonjour.
Didier Cornaille, nouveau roman disponible depuis le 6 février. En librairie. Roman qui a pour titre Le chemin de la Ronceraie. C'est dans la collection Terre de France, toujours chez votre fidèle éditeur, c'est dans les deux sens.
Dans les deux sens, je crois. Mais il y a une vieille complicité entre lui et moi.
Traditionnellement, on présente l'invité, je présente l'invité. Mais aujourd'hui, je joue un peu de paresse et je vais lire ce que Bernard Lecomte écrit de vous dans La Bourgogne pour les nuls, car vous êtes bien le seul écrivain bourguignon qui a le privilège de bénéficier d'un cadre bien spécifique. Il est entré un jour au Figaro Agricole comme grouillot au service promotion.
Grouillot.
Oui, bon, moi-même le terme grouillot m'avait un peu déplu.
Bernard Lecomte, ça, c'est pas grave.
C'était en 1966. Ce natif de Cambrai n'en était pas à sa première bêtise. Il avait refusé de devenir comptable, il avait joué les guides dans les dunes de Tamanrasset, il avait travaillé chez Valourec. Mais voilà, il voulait vivre de sa plume. De pige en pige, de journal en journal, ce morvandio d'adoption finit par publier un roman, Le vol de la buse, aux éditions de l'Armançon, puis deux, puis trois, puis dix. Le chapeau vissé sur la tête, la pipe au bec, bien en selle sur son cheval spahi, il a sillonné le Haut-Morvan, puis la moitié de la France pendant des mois, pour le compte d'un éditeur parisien. Une autre fois, il est allé se fondre avec les Inuits du Grand Nord, dont les paysages inviolés et les coutumes ancestrales sont aussi menacés à ses yeux que ceux du Morvan profond. Défendre le terroir, en préserver les sources et les coutumes, perpétuer la sagesse des hommes, voilà ce qui motive Cornaille, attaché à son village d'anneaux comme à un trésor de granit. Ça vous convient tout cela ?
Oui, sous la plume de Bernard Lecomte. Oui, on lui passe tout à Bernard Lecomte. Hein.
Alors, Le chemin de la Ronceraie, Didier Cornaille. Nouveau roman, je le répète, disponible en librairie depuis le 6 février dernier. Tout d'abord, j'ai été un peu surpris par l'orthographe de Ronceraie.
Vous l'avez remarqué. D'abord, c'est un nom propre. Et nos propres peuvent avoir d'autres orthographes que celles que vous trouvez dans le Larousse ou dans le Littré. D'autre part, pour moi, la Ronceraie, et c'est à la lecture du texte qu'on peut s'en rendre compte, c'est moins l'endroit où il y a des ronces que le passage dans les ronces. Ray, la route, la voie, hein, et le chemin. Il y a un cheminement dans ce livre, et on ne s'y arrête pas à cette Ronceraie. D'où cette orthographe un petit peu particulière.
Alors, l'action du roman se situe dans le Morvan, puisque vous testez cet observateur du Morvan et très attaché à ce qui aurait pu être un cinquième département de la...
Je ne crois pas que ça aurait été une bonne chose, d'ailleurs.
Cinquième région.
Ceci étant dit, je suis attaché au Morvan, oui, parce que j'y habite, j'ai choisi il y a 45 ans, ça commence à dater maintenant, et j'y suis bien, et c'est un bon décor pour mes livres, un cadre. Vous n'allez pas au théâtre uniquement pour le décor. Vous y allez d'abord pour la pièce, ensuite pour le décor. Et ben dans mes livres, c'est la même chose. Le Morvan est un décor qui convient bien à mes livres. Je ne suis pas là pour le décrire ou pour le défendre, pour quelque cause que ce soit. Il ne s'agit pas de ça.
Alors, nous avons dans ce village de Lérinière, Totale Invention ?
Totale Invention.
Comment fait-on pour trouver... Alors, ça, c'est une question. Je sais que Balzac, pour trouver des prénoms et surtout des patronymes à ces personnages, se promenait volontiers dans les cimetières. Didier Cornaille, comment vous trouvez les patronymes, par exemple, votre héros qui s'appelle Joseph, nom de famille, Sarmeret ?
Je me mets au fond de mon fauteuil et je, je teste des noms qui me viennent à l'esprit. Ça va pas, ça sonne bien, ça sonne pas bien. Souvent, j'en fais une petite liste. Et puis après, je biffe dans la liste et puis je finis par tomber sur un nom comme ça que j'invente.
Alors, à l'Érinière, vous déroulez l'histoire, puisque l'action commence, on va dire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la Libération.
À la Libération. 45, la 46. Guerre n'est pas finie, puisque le drame qui se passe au début est encore au moment de la Libération.
Et puis, on avance, et à la fin du roman, il me semble qu'il y a une date qui est mentionnée, c'est 2006, et bien évidemment, il y a les soubresauts.
Ça se termine de nos jours. On ne dira pas comment, mais ça se termine de nos jours.
Et donc, effectivement, on voit une société rurale évoluer, voilà, une France aussi qui évolue. On passe par la guerre d'Algérie, par mai 68, ouais, dont vous fûtes.
Dont je fus, effectivement. J'étais au Figaro, mais j'étais tout de même sur les barricades. J'ai fait les deux. J'en ai un souvenir extraordinaire.
En 68, vous étiez sur les barricades, Didier.
Je n'ai pas été sur les barricades, mais j'étais très proche des manifestants, en tous les cas. Et je me suis baladé pendant tous les événements de 68 dans ma voiture dont j'avais besoin pour mon travail, qui avait un macaron, le Figaro. Je n'ai jamais eu le moindre problème. Au contraire, même.
Alors, vous nous présentez un homme, Joseph Sarmeret, fils unique de paysans qui ont une petite exploitation et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, voient leur univers modelé notamment par des politiques vraisemblablement aussi un diktat un peu américain avec le plan Marshall. Faut nourrir la France et l'Europe.
Bien sûr, et le matériel américain s'accumulant sur les quais de Nantes ou d'ailleurs, il fallait mal l'utiliser. On l'a utilisé dans les régions céréalières, bien sûr, où il convenait à peu près bien. Je suis fils d'agriculteur du Nord, donc je sais ce que c'est. Je me souviens très bien du matériel arrivant à l'époque, mais à flot, littéralement. Hein. Pas pour tout le monde, mais il y avait un choix qui se faisait. Hein. Dans ces régions-là, ils pouvaient être adaptés, ou en tous les cas, les terres pouvaient s'adapter à ce matériel. Dans d'autres régions, c'était complètement absurde. Complètement. C'est ce qui s'est passé partout, parce qu'on a généralisé l'évolution en allant vers la grosse exploitation. Il fallait absolument que ce soit une grosse exploitation, et donc il fallait en tuer un très très grand nombre. Et on a commencé à ce moment-là, on a continué. Disons qu'on a accéléré le mouvement de détricotage de la société rurale, dont on a peu à peu tué toutes les raisons d'être.
On a tué aussi un peu les familles qui exploitaient des petites fermes modestes.
C'est ce qui a éclaté, ce sont les unités familiales presque patriarcales qui étaient, chaque communauté de village était une accumulation de ces petites unités familiales dans laquelle il y avait un patriarche qui disait donc il fallait s'entendre avec lui.
Quelle que soit l'ampleur et la taille de l'exploitation.
Quelle que soit, il y avait toutes, ce n'est pas toujours des exploitations, il y avait beaucoup d'exploitations, mais il y avait des artisans, il y avait des commerçants, etc. Il y avait une diversité d'activités, je n'ai pas dit de profession volontairement, d'activités tout à fait extraordinaires, qu'on a tuées délibérément et qui s'est dénouée. Et ce livre, c'est justement cette évolution, ces chambardements, ces chamboulements qu'a connu l'univers rural, mais pas seulement. Parce que ça se transmet au niveau national, ça. Hein. Et on va vers cette espèce de spécialisation à l'extrême, qu'on connaît de nos jours d'ailleurs, hein, dans laquelle on finit par se demander ce qu'on fait, et à quoi on correspond, à quoi on sert, à quoi servent encore les villages. Au point qu'il y a une époque, disons dans les années 80-90, où les bons apôtres du plan, à l'époque, dont la Datar, de mauvais souvenirs pour moi, en tous les cas, hein, disait « les villages vont mourir ». Ils l'ont écrit. Les villages sont destinés à mourir. Pour eux, il y avait la ville. Autour de chaque ville, selon son importance, un cercle, un rayon de région qui subissait encore l'influence de la ville et donc dont on pouvait à la rigueur s'occuper. Au-delà de ce rayon, c'était pour eux destiné à devenir le désert. Bon, nous sommes en 2020, les villages existent encore, fort heureusement, et ma foi, ils en sortent à peu près. Ça pose question.
Alors, il est vrai que vous aviez publié en 2006 un essai aux éditions de l'Armançon qui avait pour titre « Le réveil des villages », qui finalement tente à montrer que les villages ne sont pas complètement endormis et sont loin d'être morts et enterrés.
Tout à fait.
Vous croyez au monde rural, Didier Cornal, et notamment à la possibilité d'un monde rural.
Je crois au monde rural, je crois à notre société, parce que la France est composée pour 20% de grandes agglomérations, pour 80% d'espace rural. Et donc, ça fait partie de l'ensemble. On ne peut pas le nier. Donc, je ne suis pas un apôtre du monde rural, simplement, je le remets dans son contexte.
En tout cas, vous croyez et vous défendez une civilisation rurale. Je fais ce lien par rapport à la citation que vous avez mise en exergue à ce dernier roman de Antoine de Saint-Exupéry. Je la lis. « Une civilisation où l'homme est respecté au-delà de ses idées, voilà ma civilisation. »
Voilà. Alors, est-ce que je défends une civilisation rurale ? Non. Je défends une civilisation qui est la nôtre, dans laquelle le monde rural a une place considérable. Place, alors là c'est là où mon combat commence, si, dans la mesure où il y a combat. C'est que dans cette civilisation, le monde rural est complètement dénié actuellement, ce qui est une erreur profonde. Pas pour lui seulement, c'est ce qu'il faut bien comprendre, pas seulement pour le monde rural, pour notre société dans son ensemble. Il a sa place comme le reste.
Et il y a un an, au moment de l'agitation sociale explosive des Gilets jaunes, c'était aussi un petit peu certains éléments du monde rural qui est allé un peu secouer le pouvoir.
Je ne les ai pas beaucoup vus. Il n'y a pas eu de carrefour occupé, etc. Absolument pas. On a vu des. À l'époque, je véhiculais mon cheval le matin et soir depuis la maison jusqu'à son pré. Et comme ma rue n'est pas très éclairée, je portais un gilet jaune. Mais j'ai certainement été le seul gilet jaune du pays.
Et vous pensez que ce n'est pas le monde rural, c'est pas aussi un peu la province, les provinces de France, qui rappelait, nous existons, les services publics disparaissent.
Dans ce contexte-là, oui, il y a les services publics qui disparaissent, c'est effarant. Mais ce n'est pas dans cette acceptation-là, nous existons et nous avons un rôle dans le contexte national. Là, oui, d'accord, ça a été une forme de protestation, mais ça n'a pas été la principale.
Sauf erreur de ma part, j'ai l'impression qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations des paysans
non,
en France.
Non, il n'y a plus de paysans.
3% de la population ?
Oui, chose comme ça. Il y a encore 20 ans, c'était 8 ou 10% au moins, sinon plus. Manifestations de paysans, j'ai connu les dernières à l'époque où j'étais journaliste sur le terrain. Ça remonte aux années 80. Et il y a eu des fameuses manifestations, j'en ai encore des photos extraordinaires d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça a disparu. Leurs moyens de se défendre ont évolué aussi. Mais comment voulez-vous rassembler les grandes manifestations quand là où il y avait 10 paysans, il reste un ou deux ? Pas possible.
Didier Cornal, si vous en êtes d'accord, on marque une première pause musicale. Je rappelle que vous êtes notre invité aujourd'hui sur Radio jusqu'à midi pour évoquer votre dernier roman. Le chemin de la Ronceraie, c'est aux éditions des Presses de la Cité. Nous revenons dans une poignée de minutes. I try to give all myself to you, but before I can get there, got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections, I got my own set of scars to hide. I got my own imperfections, I can't hold your heart when I'm fixing mine. So give it up, give it up, I ain't gonna say. Give it up, give it up now. Give it up, give it up, I ain't gonna save you. Give it up now. 'Cause I got my own imperfections, I got my own imperfections, I got my own imperfections. Yeah, I got my own, I got my own. Trying to put you on the
before I could love you. I need to learn to love myself, 'cause I got my own imperfections. I got my own set of scars to hide. I got my own imperfections. I can't hold your heart when I'm fixing mine. So I got my own imperfections. I got my own imperfections. I got my own imperfections. Yeah, I got my own. I got my own. You're part of me, and you are too. And I don't really wanna choose. Can you love them the way that I love you? Make me who I am today, and they won't ever go away. Can you love them the way that I love you? 'Cause I got my own imperfections. I got my own imperfections. I got my own imperfections. Yeah, I got my own. I got my own. Before I can love you,
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Didier Cornaille nous accompagne aujourd'hui jusqu'à midi. Je rappelle d'ailleurs que cet après-midi, vous êtes à la librairie de la Poste à Semur en Aussois. Celles et ceux qui le souhaitent.
Chez mon ami Cyril Lefebvre.
Auprès de Cyril Lefebvre que nous saluons. Et donc vous pouvez, après avoir écouté l'émission sur Radion, aller saluer Didier Cornaille et vous procurer son dernier roman. Didier Cornaille, dans Le chemin de la ronceraie, nous avons effectivement un jeune homme paysan, fils unique, qui reprend la ferme de ses parents, mais avec un horizon un petit peu angoissant, puisque effectivement il y a une volonté politique de dire il faut surtout des grandes exploitations, et lui sent bien que la petite exploitation parentale, avec ses trois vaches et ses quelques moutons, ne va pas réussir à se maintenir face à des gloutons qui vont acheter des terres et faire des immenses exploitations.
Il les voit se constituer autour de lui, d'ailleurs, ces grandes exploitations, mais lui, il a fait le choix. On en trouve, hein, ça, je peux vous en citer, des jeunes comme ça qui ont dit non, moi je pars pas à la ville. Parce que à l'époque, c'était ça, on prenait le chemin de la ville, on partait à la ville, on laissait l'exploitation, comme ça les villages devenaient des villages de vieux, puisqu'il n'y avait plus de jeunes, ils étaient tous partis à la ville. Et certains ont dit non, moi je reste à la campagne. Et lui fait le choix de rester dans cette toute petite exploitation, qui n'est pas viable, entre guillemets, hein, j'ai mis viable entre guillemets, qui n'est pas viable en tous les cas dans le contexte qu'il connaît. Il choisit de rester parce qu'il est au fond un observateur. La ferme se trouve située de telle façon, à un angle de rue, là, qu'elle domine un peu, et de là, il voit la plaine, le fond de vallée, le village, etc. Et il voit l'évolution matérielle dans l'espace, dans le décor, de ces fermes qui se constituent, on supprime les haies, on fait des surfaces immenses, etc. Et puis ça se reporte aussi sur l'ambiance du pays, bien entendu. Et lui observe ça.
D'ailleurs, c'est très beau, vous écrivez qu'il entretient un dialogue avec son pays.
Voilà, tout à fait. Depuis le coin de son mur, là où il domine et il voit tout ça, il s'y a installé un vieux tronc d'arbre qui lui sert de banc, et il adore observer ça. Mais en même temps, il y a une forme d'organisation de la société qui est en train de disparaître. C'est le temps où ces villages avaient souvent notre bon maître, oui. C'est-à-dire la famille qui possédait la plupart des terres, d'une part, puis qui, d'autre part, était la famille dominante. Et le patriarche de la famille était un homme à qui on demandait conseil, était l'homme de référence du pays. Ça, c'est fini, ça n'existe plus, évidemment.
Grand notable, riche et qui était incontournable socialement.
Parce qu'il touchait des fermages. Hein. Et quand on avait une décision à prendre, on allait consulter notre bon maître. Hein. C'était le conseil, en même temps, l'homme de confiance. Tout ça, ça a volé en éclats, bien sûr. Hein. Complètement disparu. On en voit des... Ça a marqué les esprits, parce qu'on en voit des résurgences par-ci, par-là. Encore maintenant, de nos jours.
Parce qu'il y a un thème qui est très important dans le roman d'Edith Cornaille, c'est l'importance d'avoir une descendance quand on est agriculteur, transmettre au fils, parce que cela, c'était le modèle de la transmission familiale.
Tout à fait. Mais la transmission de la société en général, c'était le système. Ben, ce système-là, il a volé en éclats. Je cite souvent l'exemple d'un village que je connais bien, où il y a 40-50 ans, au moment des municipales, le maire sortant, qui n'était d'autre que notre bon maître, convoquait ses fermiers et leur disait « Toi, tu seras le conseiller municipal de tel hameau. Puis toi, tu seras le conseiller municipal de tel hameau. » Il constituait sa liste comme ça. Hein. Évidemment, il avait un conseil municipal qui était plutôt docile, si vous voulez ce que je veux dire. Hein. Il faut prendre conscience de ça pour mesurer à quel point les choses ont changé. Regardez une liste maintenant d'un village, c'est souvent des juxtapositions de gens extrêmement différents les uns des autres, parce qu'ils arrivent d'horizons très différents, ce qui n'a rien que de très normal d'ailleurs. Hein. Ça n'a plus du tout la même résonance, et ça crée des conseils municipaux souvent beaucoup plus houleux qu'il n'y en avait à l'époque. Je peux dire que les choses avancent plus pour autant, enfin ça c'est autre chose.
Votre personnage principal, Joseph Sarmeret, donc qui est fils unique, alors lui aussi, il veut rester au pays, il ne veut pas partir à la ville comme certains de ses camarades, tous. Ou les filles surtout. Les filles. On a l'impression que les filles ont plus de chances dans les villes que les garçons.
C'est pas que, je ne sais pas si elles ont plus de chances, peut-être, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut reconnaître une chose, c'est que les filles, avant les garçons, ont dit « Nous, la vie que notre mère a vécue dans la ferme, on ne veut plus ça. » Et il faut reconnaître qu'il y avait de quoi, très souvent, hein. C'était l'esclavage, ni plus ni moins. Et elles n'ont eu qu'une idée, c'est foutre le camp. Elles étaient beaucoup moins attachées à la terre que pouvaient l'être les garçons, ce qui se comprend aussi quelque part. Et elles ont été les premières à foutre le camp. Et mon Joseph, il va se retrouver tout seul, sans espoir de convoler, même s'il y a eu une petite aventure avec une charmante...
Laurette au départ.
Avec Laurette, voilà. Qui elle aussi est partie en fin de
compte. Gros crève-cœur pour lui. Et d'ailleurs, la conversation avec la mère est intéressante, puisque sa mère... lui dit « Comment tu t'en sortiras, mon pauvre Joseph, quand nous ne serons plus là ?» Je sais bien, à chaque fois que je te le dis, ça te met en colère, c'est pourtant bien vrai. Donc elle l'invite à trouver une femme et puis à avoir des descendants. Et lui répond « Oui, je sais, il faudrait que je me marie. Une femme, ça sert à ça, à planter les patates. » Lui aussi, il est moderne. Alors, il va avoir la chance d'une évolution sociale, parce que c'est ça aussi.
Totalement inattendu et... exceptionnel, quoi, sur beaucoup
de
points.
Il ne disparaîtrait pas, il va renaître,
lui. Il va renaître, lui, oui. Mais au prix de beaucoup de choses qu'il va devoir concéder. Ne serait-ce que de s'installer dans les pas du maître. Parce que son métier, parce que sa compétence dans son métier, qui n'est plus le métier des paysans, mais le métier de bûcheron, d'homme du bois, va l'amener alors qu'il n'y a plus personne d'autre. Et on va faire appel au plus petit du pays, celui qui est là au coin de la rue, là, sa petite ferme. Et c'est lui qui va sauver tout ça. C'est ce qu'il y a de tout à fait exceptionnel et rare.
Alors c'est aussi un vrai homme de la terre et des forêts. Il a des compétences.
C'est un homme des bois.
C'est un homme des bois.
Tout à fait. Il l'assume.
Et il y a alors un passage très poétique, Didier Cornaille. C'est la visite... Alors, à l'arbre, je vous laisse peut-être un peu développer ce chapitre où, accompagné d'une femme plutôt de la ville, il y a un culte de l'arbre, peut-être aussi une façon de renouer avec une pratique un peu druidique, celtique, quelque chose de proche
très ancien,
de
je sais pas
ce
si
que la
druidique.
Gazette faisait peut-être.
Je ne sais pas si c'est druidique ou pas, puisque c'est vrai, mais vous savez, les arbres ont toujours été vénérés. Il n'y a pas que les druides qui les ont. Le druide avec sa faucille qui va couper le gui, oui, d'accord. Mais les rois qui rendaient leur justice au pied de l'arbre. Saint-Louis, etc. L'arbre a toujours été un lieu de culte, de réflexion, de vénération. Et lui, ce brave Joseph, homme des bois s'il en est, qui a vécu seul dans ces bois pendant des années et des années, il a un véritable culte pour l'arbre, c'est vrai, pour le bel arbre, l'arbre qui domine la forêt. Et il y en a un en particulier qu'il connaît, que peu de gens connaissent. Il y en avait dans les forêts, jadis, de ces énormes arbres qui avaient dominé les autres, pour des tas de raisons tout à fait naturelles. Ils ont tous disparu parce que c'est ceux-là qu'on a abattus en premier, sous prétexte qu'ils faisaient de l'ombre à ceux qui étaient à côté. Et là, son arbre, loin de tout chemin, difficile d'accès, il va le révéler à cette jeune charmante personne qui l'accompagne. C'est là qu'il va se passer des choses entre eux. Alors, mais cet arbre, alors, on vous dira, je ne suis pas totalement convaincu de ça, mais on vous dira que plaquez-vous le dos contre un arbre comme ça, bien plaqué, depuis la nuque jusqu'au talon, hein, carrément contre l'arbre, et vous allez sentir un fluide qui va passer. Je ne vais pas jusque-là, mais je pense que si on le maintient, si on le répète, c'est qu'il y a une raison tout de même, l'arbre a une vitalité, a une puissance, ces grands arbres qui dominent ont une puissance telle qu'on peut la ressentir dans certaines circonstances, je le crois.
En tout cas, c'est ce monstre végétal qui va être le témoin des bouleversements affectifs.
Est-ce qu'il va être seulement le témoin, sinon aussi un peu l'acteur, quelque part, il va, hein, justement par cette influence que peut avoir l'arbre. Et il va marquer leur couple, on peut le dire.
Puisque nous parlons de la nature, il y a quelques passages dans votre roman, et je pense que Didier Cornaille est largement derrière, bien sûr, c'est le narrateur qui prend en charge le récit, mais le narrateur Didier Cornaille se superpose, me semble-t-il, où il y a fusion entre vous deux. Il y a tout de même des préoccupations sur la nature. Par exemple, page 228, oui, c'est incontestable, enfin, je ne vais pas faire croire à nos auditeurs que Didier Cornaille serait totalement insensible aux dégradations et aux menaces qui pèsent sur nous toutes liées à la maltraitance de la nature.
Il n'est pas insensible du tout, vous pouvez me croire.
Et depuis longtemps.
Depuis toujours. Ce n'est pas notre sujet.
Vous écrivez « Et si la nature, exténuée par les exigences démentielles de l'homme, commençait à se rebiffer ?» Ça, c'est une vieille croyance, un petit peu Gaïa, qui se révolte, qui envoie des signes.
Non, le terme rebiffé, la nature ne se rebiffe pas comme pourrait le faire un être vivant. Encore que, est-ce qu'elle n'est pas vivante ? Mais la nature finit par refuser les traitements qu'on lui fait subir, ça c'est certain. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis fils d'agriculteur dans le Nord, je peux dire que les terres du Nord, qui sont des terres parmi les plus riches de France, dit-on, hein, et ben elles en ont assez des traitements chimiques qu'on leur fait subir. On ne respecte pas la nature géologique de la Terre. Il faudra y revenir un jour.
Étonnamment, il y a un discours politique, il y a une prise de conscience, mais on a l'impression que dans les faits, il ne se passe rien ou très peu de choses.
Alors là, je vais me faire un peu l'avocat de mes amis, les agriculteurs. Il faut bien reconnaître une chose, c'est que d'une part, on leur a appris ça à l'école, et pas seulement à l'école. Les techniciens des chambres d'agriculture, etc., depuis la guerre, leur ont inculqué de travailler comme ça. Travailler à coups d'engrais chimiques et de produits pesticides qui sont de plus en plus puissants. Ce qu'on avait après la guerre, c'est de la gnognotte à côté de ce qu'on a maintenant. Hein. On leur a appris ça. Et brusquement, on leur dit non, c'est plus ça. Il faut revenir en arrière. Déjà, il faut l'admettre, il faut comprendre leur situation. Vous travaillez, vous avez votre micro, on vous dit un bonjour, il ne faut plus avoir de micro, là, il faut vous débrouiller autrement, je ne sais pas trop un moyen. Et on ne leur dit pas trop ce qu'il faut faire. Hein. D'autre part, ils se sont équipés, ces gens-là. Et quand je dis équipement, ça veut dire investissement souvent important, avec du matériel qu'on leur a indiqué. C'est ça qu'il faut. Hein, ils se sont équipés, et brusquement, on leur dit, ben non, vos pulvérisateurs, là, hein, vous les laissez dans un coin, puis vous allez faire... Alors, on ne voit pas d'autre chose aussi, c'est qu'ils sont tout seuls sur leur ferme. Il y a des villages où vous avez un agriculteur qui est seul sur sa ferme. Et tout ce qui était fait par les bras jadis, c'est fait par les machines maintenant. Brusquement, on leur dit ces machines-là, non, il ne faut plus utiliser. Donc il faut des bras à nouveau. Oh, il n'y a plus personne. On a vidé les campagnes. Ils se retrouvent donc seuls, avec du matériel dont on leur dit c'est pas ça qu'il faut utiliser, avec des techniques dont on leur dit ce ne sont plus les bonnes, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et là, je me mets à leur place. Je sais si je suis pour une évolution, pour par exemple, je prends un exemple concret délibérément, un désherbage mécanique des cultures. Ça peut se faire théoriquement, techniquement, on sait le faire, mais il faut des hommes pour ça. Puis il faut des moteurs qui polluent eux aussi d'ailleurs. etc. Le problème n'est pas simple du tout. Et je me mets à la place des agriculteurs qui se retrouvent dans une situation invivable.
Alors on pourrait aussi réutiliser les chevaux. Ça se fait un petit peu dans le vignoble.
Oui, ça, dans le vignoble, effectivement, mais dans les bois aussi. On débarque du bois avec les chevaux. Oui, on peut réutiliser les chevaux. Mais pour réutiliser les chevaux, il faut un homme qui conduit le cheval. Et le cheval, il n'a pas la production d'une machine, une grosse machine, vous voyez, les énormes trucs qu'on voit circuler dans les champs. Il n'y a pas la même production. Donc il faudra plusieurs chevaux, c'est pas là quel problème, mais il faudra plusieurs hommes derrière ces chevaux. Puis il faudra les machines qui vont avec pour aller désherber juste au pied de la plante qu'on veut garder, etc. Et donc changement de machine, etc. Alors oui, dans la théorie, on connaît les solutions. Pour les mettre en œuvre, c'est un changement de société. Il faut faire revenir du monde à la campagne. Vous y croyez, vous ?
Une utopie ?
C'est une utopie. Et il faut en avoir, hein. Je ne suis pas contre, hein. On s'en faut, vous en doutez.
Soyons réalistes, demandons l'impossible.
Voilà,
écrivait Che Guevara.
Voilà.
C'est Lydie Corneille qui nous accompagne aujourd'hui à bord de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Le chemin de la Ronceret, c'est son dernier roman disponible en librairie aux quatre coins de la Bourgogne et de France.
De la francophonie.
C'est un écrivain national.
Soyons généreux.
Vous êtes plus en Belgique, Suisse, bien
oui,
sûr.
Tout à fait. Au Canada, au Québec. Je me souviens d'avoir vu mes livres exposés dans j'en vois deux librairies de Montréal où j'ai eu la satisfaction de trouver mes livres.
Formidable. Lydie Corneille, on marque une nouvelle pause musicale et puis nous revenons dans une poignée de minutes. Je voudrais, juste avant la pause musicale, remercier Christiane et Dominique Barbe de l'hôtel à Vallon-Vauban qui nous accueillent pour l'enregistrement de cette émission. Nous revenons dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le chemin de la ronceraie, Didier Corneille, c'est le titre de votre dernier roman. Alors, il y a aussi un petit paragraphe sur l'automobile et sur notre monde moderne. Alors, le progrès, c'est beau, mais il y a le revers de la médaille. Vous écrivez « L'automobile devint l'ennemi. C'était pourtant autour d'elle et de son développement exponentiel qu'on avait bâti les villes tout au long du XXe siècle. Quant aux campagnes, celles dont on louait à quelque temps de là la haute productivité, elles virent tout à coup leurs herbicides, leurs pesticides et de façon plus générale leurs méthodes agro-industrielles montrées du doigt et vertement condamnées.
Ce dont on parlait tout à l'heure.
Juste avant, effectivement.
Oui.
Alors, il y a aussi ce qui est intéressant, bien sûr. Ce sont les contrastes dans ce roman. Le déroulement de l'histoire, une société française qui évolue d'un monde rural traditionnel vers le progrès et par la force des choses. Hein, une sorte d'impératif.
Tout à fait. C'est
marche ou crève, pardonnez-moi l'expression, c'est un peu cela.
Et là, ça peut, oui.
Il y a notre héros qui, lui, veut rester en dialogue, et fait le choix de rester, même s'il doit subir le célibat, il est enraciné, même si, je crois, vous avoir entendu dire que le thème des racines à un territoire, à un pays, vous n'y croyez pas beaucoup.
Je n'y crois pas beaucoup, je n'y attache pas plus d'importance que ça n'en a, si vous voulez, simplement, j'accepte, mais je n'attache pas plus d'importance que ça n'en a.
Et puis, clin d'œil peut-être aussi à vos parents ou à votre parcours, ce sont ces paysans, cette famille du nord de la France, qui décident, je pense, dans les années 50, d'acheter une ferme dans le Morvan.
Il y en a eu pas mal après la guerre. Où souvent, le cadet de famille, on ne savait pas où le mettre, l'aîné allait reprendre la ferme, puis le cadet, qu'est-ce qu'on va en faire? Ou même quelquefois des agriculteurs de ces régions-là, j'en ai connu, qui pour une raison ou pour une autre ne pouvaient plus exploiter là où ils étaient, et sont allés chercher des fermes, et on leur a parlé de régions qu'ils connaissaient très peu à l'époque, où les terres n'étaient pas plus mauvaises qu'ailleurs, mais elles étaient mal cultivées, disait-on. Disait-on, je mets ça entre guillemets, vous allez voir pourquoi, c'est les régions de Bourgogne, là, en Côte d'Or, dans l'Yonne. Il y a eu pendant très longtemps, à la tête de la Chambre régionale d'agriculture, un agriculteur qui habitait dans la région de Sens, qui était un de ces jeunes venus du Nord, dont le père avait repris une ferme dans la région de Sens. Il parlait avec un accent du Nord extraordinaire, c'était très drôle, à la tête de la Chambre régionale d'agriculture de Bourgogne, et qui s'est installé là et qui a fait souche. Le dernier son nom, il ne me revient pas à l'esprit. Mais beaucoup d'agriculteurs sont du Nord, des régions du Nord, de Picardie ou du Cambrésis, c'est quoi là, sont venus s'installer en Bourgogne. Et donc j'ai réutilisé ça parce que je m'en souvenais, j'en avais entendu parler. Mon père avait eu vaguement ce projet à une époque, parce qu'il avait des problèmes sur sa ferme, ça n'a pas abouti, mais j'aurais pu aussi bien me retrouver fils d'agriculteur du Châtillonnais, parce que je me souviens qu'il avait repéré une ferme dans le Châtillonnais.
D'ailleurs, vous l'écrivez dans le roman, les cas n'étaient pas rares à cette époque d'agriculteurs du Nord ayant casé leur progéniture dans des exploitations du Châtillonnais, de l'Aussois ou du Nivernais.
Oui, mais pas du Morvan. Hein.
Alors, effectivement, ce jeune gars du Nord, Albert Gaudran, donc, se voit offrir quand même grand luxe. Il se voit offrir un beau domaine.
Mais
par
c'est
papa.
L'héritage. C'est l'héritage. Ça. Papa, il a des sous parce que c'est une ferme qui marchait fort bien. Le patriarche qui mène sa ferme tambour battant. Et il fait la répartition de ce qu'il possède entre ses trois enfants, deux fils et une fille. Et comme il laisse sa ferme de son petit pays du Nord à son fils aîné,
Victor,
qui est la norme, bah pour le cadet, il faut une ferme. Alors on la cherche et on la trouve, il se trouve qu'on la trouve dans le Morvan. Là, c'est peut-être un peu romancé, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans le Morvan, hein. Mais il la trouve dans le Morvan.
Et alors, il fait de l'élevage, hein, bien sûr. On est très très loin des exploitations du Nord qui cultivent du blé ou de l'avoine ou de la betterave.
La betterave.
Et alors, la betterave, c'est très amusant, Didier Conna. J'aimerais que vous nous parliez de cette affaire de mélasse.
Je m'en doute. La mélasse, c'est un sous-produit de la betterave au moment où on sépare le sucre de la pulpe. Par des systèmes de bains, enfin on ne va pas rentrer dans les détails, il reste un sous-produit qui est une sorte de pâte assez visqueuse, qu'on appelle la mélasse, qui est pleine de sucre, très sucré, qui a un petit goût de caramel, c'est pas mauvais, j'en ai goûté longtemps. Et depuis très très longtemps, depuis qu'il y a des sucreries dans le Nord, dans les régions où il y a eu des sucreries, c'est-à-dire depuis la fin du 19e, hein, et ben on utilise la mélasse en aliment du bétail, on ajoute ça quelquefois, simplement, à la casserole, comme ça, versée sur le foin. Et les bêtes adorent ça. Et ça leur est très productif. Et voilà que ce jeune agriculteur amène de la mélasse dans le Morvan. Là, il surprend les gens, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est, comme il amène l'ensilage, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Il n'y a pas longtemps qu'on fait de l'ensilage dans nos régions. Hein. Mais dans le Nord, ça a toujours existé. On a des cas d'agriculteurs qui faisaient leur tour d'ensilage, c'était rond les silos au départ. On cite le cas d'un agriculteur du Pomereuil, un petit village de ma région, à moitié forestier d'ailleurs, qui a fermé son silo en août 14, alors qu'il avait sa feuille de route dans la poche. Il s'est dépêché de fermer son silo en disant oh, ça va durer 3 ou 4 mois, quand je vais revenir, j'aurai mon silo pour l'hiver. Il est revenu, il a eu la chance de revenir, mais il est revenu 4 ans après, et le silo était toujours bon. Et donc les techniques d'ensilage étaient tout à fait utilisées dans ces régions-là, alors qu'elles étaient inconnues ailleurs. Et quand ce jeune agriculteur arrive avec sa mélasse et son ensilage, évidemment, les collègues du Morvan, ils font un peu la tête.
Alors cet Albert qui vient du Nord et qui devient finalement le nouveau maître du domaine de la Ronceraie, il est un peu désinvolte, n'est pas un passionné.
Non, c'est un rêveur.
Heureusement qu'il trouve la femme qui... C'est marrant parce que les femmes dans le roman sont tout de même des femmes de caractère, elles sont plus femmes d'affaires.
Croyez-vous que c'est seulement dans le roman? On vous dira souvent que ce sont les femmes qui décident. Souvenez-vous de mon roman Les Labours d'hiver, qui là se passe en 14. Et quand les hommes sont partis en 14, qui c'est qui a dirigé, qui c'est qui a sauvé les fermes et qui les a menés tambour battant? Ce sont les femmes. Et les femmes, souvent, ben oui, elles sont devant leur fourneau, mais elles écoutent, elles enregistrent, et sont elles qui décident. Et c'est souvent la force de décision, la femme dans les fermes. Très souvent. Et là, c'est le cas. Parce que Albert, il est gentil, c'est vrai, mais c'est un doux rêveur, Albert.
C'est et au pas début du roman, me semble-t-il, on voit bien la femme du bon maître qui essaie de dompter le tracteur, qui passe devant la ferme des Sarmerets.
Mais elle
est veuve et l'exploitation est trop grande pour elle.
Et puis elle c'est une citadine, elle est une fille de chirurgien, elle n'y connaît rien du tout, elle est complètement perdue. Là.
Il y a aussi un épisode que j'aime bien, et c'est marrant, j'ai l'impression que Didier Cornat ne peut s'empêcher de toujours faire un petit renvoi à 68. Il y a cette arrivée, alors vous parlez de 68, la peur du grand soir, et des bourgeois de Paris ou de la grande région parisienne, qui tout d'un coup, sentant monter un peu les revendications, se dit il faut placer l'argent quelque part, et on le place dans l'immobilier, et notamment en rachetant des fermettes du Morvan.
Et ça a existé très fort, ça. Ça a été passé par perte des profits dans l'ensemble du mouvement un peu désordonné tout de même de 68, mais ça a existé. Et dans des petits villages comme le mien, au fin fond du Morvan, on a vu brusquement de vieilles maisons fermées depuis très longtemps, qui changeaient de propriétaire, mais très rapidement, sans qu'on sache très bien comment. Ben, c'était des économies de citadins qui se sont dit « Ouh là là, là le grand soir qui arrive, il faut planquer ce qu'on possède » et qui achetaient de la pierre à tout va. Des pierres qui ont été revendues très rapidement, d'ailleurs, en général.
Et d'ailleurs, il y a un petit groupe de hippies qui débarquent dans la ferme achetée par
des babacools.
Des babacools.
Oui, ça aussi, on en a eu. Mais on en a eu jusque dans les années 72, 73. Des groupes qui arrivaient comme ça, puis qui s'installaient dans des maisons, venant justement de cette peur du grand soir, ou même d'autres, de la grand-mère qui a dit j'ai ma vieille maison, on m'en vend, on y allait. Ça n'a pas été très productif, ça. Hein. Au contraire, ça a même posé souvent des problèmes. Bon, là, je les expose un peu. Bon, mais je pense que 68, que j'ai vécu, et là, je garde un bon souvenir, je suis peut-être un des rares à garder un bon souvenir de 68, c'est tout de même un tournant très important. Ce qui s'est passé en 68, ce mouvement de revendication urbain, étudiant au départ, mais essentiellement urbain, le monde rural n'y a rien compris. Il n'avait pas les éléments en main pour comprendre. Alors, a fortiori, quand on est dans le Nord, chose comme ça, bon, à la rigueur, j'évoque souvent le Nord, c'est pas pour rien, mais c'est quand on est dans des régions un peu ouvertes, la Champagne, si vous voulez, on peut arriver, on a les clés pour comprendre un petit peu ce qui se passe à la ville. Mais quand on est au fin fond du Morvan, en 68, hein, on n'a pas ces clés-là. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Le retour de Gaulle, si vous vous souvenez, quand De Gaulle a disparu, quelques jours, il était parti à Baden-Baden. Et quand il est réapparu, dans ce monde rural-là, ce monde rural profond, qui découvrait qu'il y avait la radio, depuis un certain temps tout de même, et qui découvrait la télé, tout le monde ne l'avait pas, ça a été un choc extraordinaire. Il est revenu. C'était le sauveur. Et ils lui ont voué une admiration, mais délirante, sans borne. Un peu hors de toute logique, de toute analyse, si vous voulez. Ils n'avaient pas les éléments pour analyser. Personne ne leur avait rien expliqué. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et alors, ce qui a été très important, c'est que jusque-là, jusqu'à cette époque-là, les jacqueries, les révoltes, quelles qu'elles soient, c'était les manants qui les menaient. Hein, le petit peuple des campagnes qui se rebiffait contre le pouvoir. Là, ça a été l'inverse. L'ordre a été représenté. Enfin, les gens, les habitants de ces régions-là ont défendu l'ordre. C'est une inversion des choses dont on n'a peut-être pas pris la mesure sur le coup, il n'y a pas de raison tellement de la prendre, mais dont on a tenu compte après. Et ça a encore des échos sur nous maintenant. Ça a été une période, un virage, on ne s'est pas rendu compte, c'était un petit peu farfelu, hein, la plage sous les pavés, moi je veux bien.
Il est interdit, ou je suis marxiste, tendance Groucho.
Ouais, il est interdit, etc. Très bien, mais il y avait un côté folklorique tout de même derrière ça. Et quand à la Pentecôte 68, brusquement l'essence est revenue, comme par miracle, dans les stations-service, on a pu partir en vacances, c'était fini, on ne parlait plus de mouvement. Il y a eu des conséquences longtemps après. Mais la surface des choses, celle que rapportent les journaux au jour le jour, hein, celle-là, tout est rentré dans l'ordre, on n'en parle plus. Les conséquences, nous les vivons encore.
Les conséquences de 68 ?
Oui.
C'est-à-dire tout de même un individualisme triomphant aujourd'hui.
Une remise en cause.
On a fait voler en éclats un peu les structures traditionnelles.
Oui.
La famille, la patrie, la nation.
On les a remises en cause. Dire qu'on les a fait éclater, je ne suis pas totalement d'accord. On les a remises en cause. On s'est interdit d'interdire. C'est-à-dire qu'on s'est interdit de prendre des choses telles qu'elles étaient par le passé et ne surtout pas y toucher. Et maintenant, on va réfléchir et on va remettre en cause s'il le faut. C'est un esprit de discussion, un esprit de contestation qui s'est créé, et c'est peut-être lui qui existe encore. Et c'est très bien.
On fait une dernière pause musicale, Didier Corbeil. Le chemin de la Ronceret, je rappelle, c'est le titre de votre dernier roman. Je sais déjà que prochain roman en 2021 est en cours d'écriture.
Est vraisemblable en tous les cas.
Comme chaque année.
Comme chaque année, on va essayer de tenir le rythme tant qu'on pourra.
On se retrouve dans une poignée de minutes, c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Super.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Didier Cornaille, dans une précédente émission, celle que nous avions enregistrée il y a 2 ans, vous nous disiez que finalement le Morvan est un monde qui bouge. Vous croyez au monde rural capable de vie associative riche, capable surtout d'accueillir en fait une production artisanale, artistique, industrielle, même notamment par le biais du télétravail. Enfin,
notamment. Pas seulement. Le télétravail est un facteur important. Et d'ailleurs, on voit qu'il se développe. Hein. Sans bruit, d'ailleurs, sans faire de remous. Mais vous comptez de plus en plus de gens qui restent chez eux à travailler sur leur ordinateur, qui se reconnaissent télétravailleurs ou pas d'ailleurs, parce qu'ils ne le font pas à temps plein, mais c'est un facteur tout de même important qui a aboli les distances. Hein. Maintenant, il y a d'autres choses, vous citiez l'artisanat, le commerce, etc. Certaines petites entreprises qui n'ont rien à faire, qui ne sont pas viscéralement attachées à la zone industrielle urbaine comme elles l'étaient avant, pour des raisons de maintenance, de transport, etc. Ces choses-là ont beaucoup évolué. Et donc, pour beaucoup de petites entreprises, être en zone rurale, quelle qu'elle soit, ça coûte moins cher, déjà. Hein, et c'est souvent plus agréable. Puis on a plus d'espace. Donc on peut voir un certain mouvement. Il ne compensera pas le manque d'activité du monde rural, pas totalement. Mais c'est un facteur positif tout de même.
Alors, Anneau est plutôt vivant.
Anneau est une commune qui a gardé une certaine activité pour des raisons historiques, rien à voir avec le moderne. Pour des raisons historiques, parce qu'à une époque, Anneau a concentré l'activité qui était la grande activité de l'époque, c'était les galvachés. Anneau était devenue la capitale des galvachés, ça a permis un certain développement. Qu'Anneau se démarque par rapport aux autres villages aux alentours. Et puis les événements ont voulu que cet écart créé entre les pays aux alentours et Anneau se maintienne, parce qu'il y a eu un hôtel à une époque dont le restaurant était connu au niveau national, donc c'est un homme compte, hein, c'est plus le cuistot. Hein. Ça a maintenu sa réputation. Et puis ensuite, il y a eu un certain dynamisme, entre guillemets, de cette commune, ou en tous les cas, une activité plus grande que dans les communes voisines, qui fait qu'encore de nos jours, Anneau, par exemple, a tous les commerces. Hein, et augmente légèrement sa population, légèrement, mais augmente sa population tout de même d'un recensement sur l'autre, mais il n'empêche que les perspectives ne sont pas très réjouissantes et qu'on est tout de même inquiet pour l'avenir.
Alors vous parlez effectivement d'un hôtel ou d'un restaurant qui a compté à
l'hôtel Luyard, qui était connu, qui a eu son heure de gloire.
Et bien dans le petit village de Lérinière, finalement, le café-tabac de Sidonie, oui, va être tout de même repris par des jeunes gens qui vont arrêter, je crois, le tabac, mais ils vont transformer aussi l'appellation, l'identité,
la couleur du coup.
En tout cas, il va perdurer.
Ils vont lui donner un autre style. Et ça, ce sont des cas qu'on connaît. Ça. Alors là, je peux vous citer le cas. Il se trouve que c'est à Anneau, ça pourrait être dans une autre commune. Un petit magasin de rien du tout, tout petit, minuscule, qui fait des billes de tabac. Puis vous savez, il fait l'auto, il fait différentes cartes postales, des tas de bricoles comme ça. Depuis 45 ans que je suis à Anneau, c'est maintenant le quatrième propriétaire que je vois. Il s'est vendu à chaque fois et il continue. Et là, on est en train de le vivre, c'est pour ça que j'y pense.
Et il continue. Et on peut s'en réjouir.
Ah, tout à fait, évidemment.
Alors, une petite note plus tristounette, parce que le moment est venu de conclure. La disparition des éditions de l'Armançon il y a 2 ans, Didier Cornaille, c'est
aussi une souffrance. Alors là, vous concluez sur quelque chose de très triste, oui, effectivement.
Mais je le dis aussi parce que, effectivement, Gérard Gauthier, le créateur de cette maison d'édition en 1987, me semble-t-il, m'a expliqué aussi que la disparition d'un grand nombre de points de vente a contribué à la liquidation judiciaire, malheureusement.
Alors là, on passe à tout autre problème qui n'est pas seulement rural, celui-là, il est même dans les villes, on rencontre ce problème-là. C'est une évolution de la diffusion qui est catastrophique, littéralement catastrophique. Pour revenir on n'a pas trop le temps, ne parlons que de la Bourgogne, eh bien il n'y a plus d'éditeurs en Bourgogne. Parce que c'est vrai, il n'y a plus de points de vente. Et quand Gérard Gauthier, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a publié mon premier roman, et dont je peux dire que c'est un ami et un ami très proche...
Donc le vol de la buse, 1991, pris
Sully Olivier de Serres.
Comme Vincenot l'avait eu pour...
20 ans avant.
Le pape des escargots.
Voilà, exactement. Je l'ai eu en 72, je l'ai eu en 92 pour mon premier roman. Grâce à Gérard Gauthier. Mais Gérard Gauthier, à la fin dans les dernières années d'édition d'Armançon, il était beaucoup plus représentant qu'éditeur. Il était en permanence sur la route à essayer de placer trois bouquins par-ci, par-là, parce qu'il n'y a plus de point de vente. Mais pourquoi ? Parce que les structures technocratiques qui diffusent le livre méprisent totalement les petits points de vente. Il n'y en a plus que pour les grandes surfaces. Et résultat, ben, ces petits points de vente, ben, ils vendent autre chose. Je vous parlais de ce petit débit de tabac d'anneau qui est en train de se vendre. Ils ont vendu à une époque pas mal de livres. Ils en ont encore quelques-uns, mais pour la forme. Et puis c'est tout, personne ne les fournit, personne ne s'occupe d'eux. Et ben, ils ne le font pas. Et résultat, il n'y a plus... Alors, il y a un effet de chaîne. Hein. Il n'y a plus de vente sur le terrain. Et ben, comment voulez-vous qu'il fasse l'éditeur ? Il ne peut pas se payer. Et donc, il ne peut plus accueillir les auteurs, etc., etc. C'est un effet qui va loin comme ça. Hein. Il n'y a plus d'édition spécifiquement bourguignonne. Autant dire qu'il n'y a plus de création littéraire en Bourgogne. Je sais que je peux faire bondir pas mal de gens en maintenant ça, mais je le maintiens haut et fort. Il n'y a plus de création littéraire en Bourgogne.
En tout cas, je rappelle le titre de votre dernier roman, Le chemin de la ronceraie aux éditions des presses de la cité. Et puis Lydie Cornaille, je voudrais, vous connaissez Galvacherie Morvandel de Jean Perrin,
bon,
que j'ai
acquis
il y a quelques jours, et qui est un recueil de dessins
adorable.
Absolument savoureux et que je recommande, je trouve que ça peut être un très beau cadeau et c'est un livre,
Jean Perrin,
un recueil de dessins.
Jean Perrin pour moi est un grand artiste.
Voilà, et je voulais mentionner, et bien sûr, également, votre roman, Didier Cornaille. Je vous salue et vous remercie d'être venu jusqu'à nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. C'est toujours un bon moment pour qu'on parle des livres. Et bien, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur les livres.
Absolument, absolument. Prochain rendez-vous de Wagon Livre samedi prochain, toujours à 11h sur Radio. Et puis, si vous avez manqué le début de l'émission... Et quand là, vous savez, c'est magnifique Internet, on retrouve l'intégralité de l'émission en podcast sur le www.yannickpetit.fr. Merci à toutes et à tous, merci Didier Cornaille, au revoir.
C'est moi qui vous remercie, au revoir et à bientôt.
Et à la semaine prochaine.